Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. En direct, jusqu'à 16h30 depuis notre nouveau studio, que Marie-Claude Cudry a inauguré les jeudis derniers, qu'on salue et que nous retrouverons en milieu d'émission avec sa chronique Les Rencontres de Marie-Claude. Aujourd'hui, émission spéciale, cap sur la Belgique, et oui, au quartier culturel. Et à Pavillon Nomade, nous avons un faible pour les artistes belges. Et intimement pour ma part aussi, et oui, j'ai épousé une Belge de Namur. C'est une histoire qui dure, et non pas que dans ma vie personnelle, mais avec les différentes rencontres. En tant qu'auteur, écrivain, éditeur, musicien, ils sont nombreux à être passés par ici. Sans oublier que notre radio doit beaucoup à un Belge, en particulier à Gérard Wang. N'est-ce pas Gabriel ? Bonjour Gabriel.
Oui, Gérard Wang, un Belge qui travaillait pour la radio-télévision belge, qui a créé une radio universitaire et qui est ingénieur du son, technicien du son, musicien. Et c'est lui qui a coaché les premiers pas de l'émission, les premiers pas de Pavillon Nomade. Et c'est lui aussi qui a réalisé les 6 podcasts sur l'histoire de Malévoukout. Vous pouvez trouver en ligne Gérald Wang.
Gérald Wang, qu'on remercie. Bref, aujourd'hui, on peut presque dire que la Belgique est à l'honneur. Pour en parler, nous recevons 3 invités. Florence Drion, responsable projet de mobilité sociale. Anaë Lejeune, étudiante stagiaire au quartier culturel de Malévo. Myriam Pruvot, artiste belge. Et sans oublier, comme vous l'avez vu, notre invité spécial aussi est Gabriel Binder, qui nous accompagnera tout au long de l'émission et qui nous propose en dernière partie un échange, une rencontre avec notre dernier invité. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouvez dans son intégralité et en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors Florence, on va vous ramener un petit peu le micro plus près d'eux. Merci d'être avec nous.
Merci à vous de nous accueillir.
Voilà. Vous êtes responsable projet de mobilité sociale en Belgique à l'HELMO, Haute École Libre Mosane.
Oui, c'est exact. Plus précisément, je suis coordinatrice des relations internationales, à vrai dire. Donc voilà.
Ah ben merci pour clarifier un petit peu. Tout d'abord, présentez-nous un peu votre établissement. Où se trouve-t-il ? Combien d'étudiants ? Quelle filière ?
Alors, nous nous trouvons en Belgique, comme vous l'avez dit, à Liège plus précisément. Et donc, on fait partie de ce qu'on appelle la Haute École ELMO. Mais notre département à nous, c'est l'ESAS, l'École supérieure d'action sociale, où on a 3 filières. On a la filière qu'Anaï connaît bien, donc en animation socioculturelle et sportive. On a la filière en assistante sociale et on a la filière du master, donc qu'on fait en codiplomation avec une autre école à Liège également.
Eh bien voilà, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont proposées. Alors autour de la table, je crois qu'il y avait déjà des gens qui avaient envie de poser une question. Ludovic.
Alors oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question pour vous. Je voulais savoir comment était né ce partenariat avec le ballet.
Alors, c'est une excellente question. Donc, on a des partenariats avec les hautes écoles de différents pays. Et donc, effectivement, c'est ma collègue qui était présente avant moi, Delphine Sertz-Evans, qui a eu l'occasion de rencontrer effectivement les partenaires ici en Suisse. Et on a créé ce partenariat pour que les éducateurs puissent venir profiter quelque part de votre savoir ici en Suisse.
Alors, on parlait d'échanges, hein, finalement, si on entend bien. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui de créer des échanges entre les écoles ?
Alors, ça, Anaïe saura mieux répondre que moi au vu de son expérience, mais je pense effectivement que vivre l'international, c'est découvrir l'autre, c'est découvrir d'autres cultures, d'autres manières de faire, en lien avec la profession ici qui nous occupe, et que c'est toujours hyper intéressant d'aller à la rencontre de l'autre, avec un grand A, dans d'autres manières de fonctionner. Donc voilà.
Alors j'imagine, et vous qui êtes liégeuse, je crois qu'on dit comme ça, les joies liégeuses, on entend l'accent belge, hein, ça
pas
fait plaisir,
tout.
Mais pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous a frappé en découvrant le terrain suisse, en arrivant en Suisse ? Alors je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez en Suisse ou pas ?
Oui, on va dire que oui, je suis venue étant jeune, mais ici ce qui m'a pratiqué, enfin, qui nous a interpellés, c'est vraiment l'environnement dans lequel vous vivez. C'est juste extraordinaire. Et puis l'école sociale qu'on a visitée avec l'espace. Enfin voilà, je pense que l'environnement participe pleinement pour moi effectivement à la formation en travail social.
Ben merci. Inaya, vous aviez aussi une question à poser à notre première invitée du jour.
Ma question, c'était combien d'étudiants sont concernés chaque année par ces échanges et travaillez-vous aussi avec d'autres pays ?
Oui, donc on a la chance de travailler avec plusieurs autres pays. Ben, la Suisse, comme je l'ai déjà dit, on a la France, on a le Canada, on peut avoir le Portugal, on peut avoir l'Espagne. Enfin voilà, il y a vraiment différents pays qui sont concernés par nos échanges. Et alors, combien sont concernés? Généralement, il y a une petite vingtaine d'étudiants. Cette année, je pense qu'ils étaient 16 au final, qui sont concernés par les échanges internationaux.
Est-ce que ces échanges vont dans les deux sens? Vous accueillez des étudiants aussi?
Bien sûr, c'est tout l'intérêt pour moi de créer des échanges et des partenariats. Donc on envoie nos étudiants à l'étranger et puis on est très heureux de les accueillir et on fait découvrir le folklore liégeois.
Le folklore liégeois, d'ailleurs, en parlant de folklore, on était il y a quelques semaines, on avait aussi notre folklore, mais on avait le carnaval de Montet. Est-ce que vous êtes arrivé à temps pour participer au carnaval ou vous venez juste fraîchement d'arriver?
Malheureusement, on n'a pas pu participer, mais croyez-moi, je connais bien le carnaval et j'aurais participé avec plaisir.
À Liège, on a un carnaval.
Alors, il y a le carnaval du Nord à Liège, donc c'est dans un quartier spécifique à Liège, mais moi, personnellement, je viens de Malmedy où on fête le Quarmé, et donc vrai carnaval traditionnel. Que vous devez connaître ici aussi, sans doute.
Alors, en concurrence avec le carnaval de Binche, des Binchois, qui est hautement réputé, apparemment.
Évidemment, mais le carnaval de Malmedy, c'est le meilleur.
Le carnaval de Malmedy, c'est le meilleur. Alors, on voit le côté chauvin, quand même, qu'on les vit de jeu, d'outre-Meuse. dès qu'on passe de l'autre côté, ça n'existe plus.
Non, pas du tout.
Mais en parlant de différences, on parlait de ces différences de carnaval, mais de différences dans les pratiques. Est-ce qu'il y a des différences comme ça dans la posture professionnelle ou au contraire des points communs quand on est finalement avec des cultures différentes, avec une approche différente peut-être du domaine social?
De ce que j'ai pu constater, en tout cas jusque maintenant, ce qui est identique, c'est l'accompagnement, l'importance de l'autre dans l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose d'identique. Maintenant, je pense effectivement sans doute que dans certaines méthodologies, dans certains projets innovateurs, etc., les choses peuvent être un peu différentes d'un pays à l'autre et des manières de fonctionner qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Mais je pense que ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que l'intérêt de l'autre prime dans le travail social. Et donc ça, c'est réjouissant.
Ouais, vous avez raison. L'intérêt de l'autre prime dans le travail social, n'est-ce pas, Gabriel?
Oui. Est-ce que vous avez, dans les problématiques, est-ce que vous pensez que ce sont un peu les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer en Belgique, au Québec, en Espagne, en Suisse?
Alors, j'ai envie de dire qu'il y a sans doute effectivement des spécificités quand même à chaque pays, à chaque culture, à chaque manière de fonctionner, mais que peut-être aussi il y a des problématiques communes. On l'a vu hier à travers certains étudiants qui revenaient aussi de mobilité, qui parlaient effectivement de problématiques communes en lien avec la précarité, en lien avec les problématiques liées au genre, etc. Et donc ça, c'est des problématiques en lien avec la santé aussi, le vieillissement de la population. Et ça, on sent que c'est des problématiques communes quand même, en tout cas auxquelles la Belgique est confrontée également.
Et puis, si j'ai bien compris, vous avez une formation animation socioculturelle et sportive.
Alors, moi, pas. Moi,
non,
je
mais
suis
dans cette école.
À l'école, oui. On forme des animateurs socioculturels et sportifs, effectivement, avec comme point d'entrée le culturel, le sport. Et ça, Anaïs saura mieux en parler que moi, vu qu'elle le vit, elle, au quotidien, sans doute.
D'ailleurs, c'est l'occasion déjà de vous remercier, Florence Grillon, d'être présente et d'être avec nous. Vous restez combien de jours
Alors,
dans la région?
On reste ici, dans la région, jusque demain. Et puis, on part sur Lausanne, qui est la région aussi. Mais on va aussi à Lausanne lundi et mardi.
Ah, vous allez chez les Vaudois. Pourquoi pas, Gabriel, n'est-ce pas?
Il faut oser l'aventure.
Il faut oser l'aventure. Si vous voulez pousser jusqu'au bord du lac, au bout, à Genève, ça, c'est encore une autre aventure. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos premières questions.
Merci à vous.
Bonjour, Anna et Lejeune.
Bonjour.
Ça va? Pas trop stressé de passer après Madame la responsable?
Non, ça va.
Ça va d'aller, M'Fay. Eh oui, je j'ose voilon. Et si on faisait un peu connaissance? Quel âge avez-vous et de quelle région êtes-vous de Belgique déjà?
Alors moi, j'ai 20 ans et je viens de Liège, à la frontière avec les Pays-Bas.
La frontière avec les Pays-Bas. Donc vous parlez aussi
peut-être...
In Beach and Netherlands. Alors moi, je ne connais rien du tout. Je ne sais pas si Gabriel...
C'est pas de Fadam Penedit.
Ah oui, alors ouais. Moi, je ne connaissais que pour dire merci d'un cul.
Ouais, d'un cul.
Ça, tu n'as pas eu beaucoup de peine à retenir,
non,
j'imagine.
Pas du tout. D'ailleurs, j'en ai fait des blagues et ça n'a pas tout le temps fait rire les serveurs qui me disaient « Mais vous savez, monsieur, je parle aussi français, moi. » Enfin, voilà. Mais ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Quelle formation suivez-vous? Et en quelle année vous êtes? Un peu pour qu'on puisse faire connaissance.
Alors moi, je suis en dernière année et le titre complet de mon diplôme, c'est éducatrice spécialisée en animation socioculturelle et sportive.
Et quand vous dites sportive, est-ce que vous êtes vous-même sportive? Est-ce que vous avez des domaines, un domaine, on pourrait dire, de prédilection? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes un nom très reconnu en Belgique. Vous avez peut-être participé aux Jeux Olympiques il y a quelques années ou même pas?
Non, pas encore.
Pas encore, mais
c'est l'objectif.
Mais vous êtes sportive professionnelle, j'entends.
Sportive tout court, sportive du village.
Oui, c'est-à-dire
On fait des petits podiums dans le village ou la course à pied.
Donc, votre prédilection, c'est la course à pied, si on a bien compris.
Oui, l'athlétisme.
Athlétisme, course plutôt de fond, longue distance.
De fond, 15 et 20 kilomètres.
15 et 20 kilomètres. Eh bien, dis donc, alors ça, c'est un, Gabriel, par exemple, ça me fatigue déjà. Mais...
D'y penser, mais c'est un, plat, c'est un plat pays.
J'allais dire, mais par contre, on court peut-être plus vite en Belgique qu'en Suisse. Hein.
Ah, mais je vais te dire quelque chose, mon cher. Sais-tu que la Hollande a fait plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver que la Suisse?
Ah, j'allais dire que la Belgique, parce que... Ouais. Alors, ça, je ne savais pas. Cette année, aux derniers Jeux Olympiques.
Parce qu'on peut aussi faire du patin à plat, course de vitesse. Tiens, on peut être la pente.
Ouais. Avant de venir ici pour faire ce stage, est-ce que vous aviez déjà fait d'autres stages? Et si oui, dans quelle structure?
Oui, en Belgique, on a des stages dès la première. Donc, en première, j'ai fait mon stage en maison de jeunes, avec des jeunes de 12 à 22 ans. Et celui de l'année passée en maison de repos, dans un EHPAD, un home, maison de retraite, que vous dites ici.
Alors ici, on dit maison de retraite, on dit EMS, établissement médico-social. Ludovic, vous aviez aussi une question pour notre invité.
Ma question, c'était pourquoi avoir choisi la Suisse?
Alors, il faut savoir que dans nos études, on n'a pas de cours de langue. Donc, automatiquement, on devait partir dans un pays francophone. Et on avait l'option entre la France et la Suisse, parce qu'on a des nouvelles options qui a fêté ses 10 ans cette année, parce qu'elle regroupe un éducateur et un animateur. Et le Canada, ce n'était pas possible, parce que le contrat de travail est beaucoup plus compliqué qu'ici en Suisse.
Ah ben voilà, on en sait un peu plus déjà sur les motivations, sur votre parcours. Concrètement, vous êtes arrivé au MQC, au Malévo Quartier Culturel, il y a combien de temps?
J'ai fait hier un mois.
Un mois hier? Donc vous avez fêté ça? Vous habitez ici sur le site ou pas?
J'habite pas sur le site, j'habite à 10 petites minutes du site.
Concrètement, qu'est-ce que c'est une journée pour vous de stage au MQC? Comment ça se... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que...
Alors souvent, j'accompagne les participants à la buvette. Sinon, il y a également les artistes en résidence, que j'en suis deux. Et alors, on les accompagne pendant les ateliers avec les patients ou les participants en fonction. Et on s'occupe d'avoir une gestion complète.
Ben, c'est pas mal. Je comprends que vous aviez déjà fait des stages dans le domaine de, on pourrait dire, de social, humain. Vous parliez d'EHPAD, d'EMS. De venir dans une structure, un stage du MQC quartier culturel, implanté au cœur d'un hôpital psychiatrique. Est-ce que, comme ça, vous aviez eu des petites appréhensions, des idées préconçues? Comment vous avez vécu ces quelques heures, jours avant d'arriver ici?
Alors, c'était très particulier parce que moi, je voulais partir pour l'expérience. Donc, j'avais accepté toutes les possibilités de stage parce que je voulais partir. Je ne voulais pas mettre de frein là-dessus. Maintenant, quand on m'a dit hôpital psychiatrique, oui, il y a eu des peurs parce qu'on ne connaît pas et on se fait des films, on imagine. Il y a des croyances qu'on a, des préjugés qu'il faut enlever.
Alors c'est vrai, vous parlez de croyances, de préjugés, des idées. Alors c'est vrai qu'on est encore dans une société très stigmatisante. Les journaux, peut-être même certains films, donnent une image aussi très négative, décriée de la psychiatrie. Après un mois ici, comment a changé votre vision qu'est-ce qui a effectivement changé dans votre regard?
Alors dans mon regard, pour moi, une personne en psychiatrie, on le voyait comme s'il y avait une étiquette sur le front. Alors que maintenant, depuis un mois, finalement, on ne le voit pas. L'avantage du quartier culturel, c'est qu'il y a tout le monde qui peut venir, autant participants, patients et personnes lambda, je vais dire, et tu discutes, mais tu ne sais pas avec qui tu discutes avec une personne, un prénom, et pas une maladie, et c'est intéressant.
Oui, vous avez raison, parce que quand on se balade dans la rue, c'est pas marqué. Et avant d'être... moi, j'étais toujours étonné des gens quand ils se présentent. Ils disent « Oui, bonjour, je m'appelle un tel, je suis schizophrène. » Non, mais vous n'êtes pas schizophrène, vous êtes monsieur un tel être humain. Vous souffrez d'un trouble psychiatrique qui peut se diagnostiquer par ça, mais avant tout, vous êtes un être humain, une personne. Mais c'est vrai, c'est pas marqué sur le front la maladie.
Ce qui te fonce, ce qui te piste.
Ouais. Et puis je leur dis souvent, vous savez, il y a peut-être plus de gens en souffrance à l'extérieur qu'à l'hôpital, parce qu'en majorité, le pourcentage de personnes qu'on accueille ici contre leur gré. Par rapport à ceux qui ont décidé de venir, si on a décidé de venir, c'est qu'on a déjà envie de... qu'on comprend, qu'on a envie de changer. Donc, ça veut dire qu'on est quand même déjà bien plus stable et sur la voie du rétablissement. En tout cas, merci pour cet échange. On a dit tout à l'heure, vous êtes installé pas au MQC parce qu'il y a aussi des artistes qui vivent ici, qui viennent en résidence. Il y a des infirmiers qui vivent aussi dans les chambres proposées et mises à disposition par le quartier culturel. Vous êtes dans le quartier des Nerfs.
Exactement.
Alors, le quartier des Nègres, Gabriel, il se situe où ici? C'est au-dessus de l'hôpital, hein?
Je crois que c'est vraiment pas loin d'ici, mais c'est très en pente pour y arriver, c'est juste. Ouais.
Hein? Oui. Ouais, il faut s'accrocher, pas avoir le vertige.
Bah, pour l'entraînement, ça doit être bien. Vous y allez
ça
en courant.
Ça travaille le cardio.
Vous partez en courant, vous revenez en courant?
Non. On court dans le parc et dans la région.
Bon, alors ça, c'est bien pour garder le rythme, parce que c'était ma question aussi de te dire, mais est-ce que vous êtes en stage là? Est-ce que vous avez des prétentions peut-être à des concours? Est-ce que vous avez du temps pour vous entraîner, pour garder ce rythme ou pas?
Alors oui, je suis à 4 jours semaine ici, donc j'ai congé le mercredi et le week-end. Donc ça me permet de continuer à visiter la Suisse, parce qu'il y a encore beaucoup à visiter, à travailler pour l'école et avoir des petites occupations sportives.
Ça, c'est bien. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec une amie avec qui vous êtes en cote.
Si exactement, je cote avec
si
elle.
Si vous cotez avec elle, si le terme est juste, avec qui vous êtes en cote. Est-ce qu'elle est dans le même domaine que vous, ou vous êtes venue par hasard, ou vous êtes rencontrée là-bas, ou est-ce que vous la connaissez en lien avec votre formation?
Oui, alors elle est dans la même classe que moi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et elle effectue son stage à Massonger. Chez les Terres des Hommes, avec des enfants malades, et elle apprécie beaucoup, elle aime bien.
Oui, magnifique structure Massonger, qui aide les enfants pour tout ce qui est opération. Et ils ont d'ailleurs un super festival qui s'appelle un festival de musique à Massonger.
Il n'y a plus. Il n'y a plus.
Oh, bah alors là, je suis déçu d'entendre ça. Hein, parce que le parrain, c'était Yannick Noah, je crois, voilà. Pendant des années.
Mais je sais qu'il est venu en concert il y a une ou deux semaines. Où les enfants, on peut le rencontrer, en tout cas.
Il vient souvent, ouais, c'est un peu le parrain de... Pour les Belges qui vont nous écouter plus tard, c'est que Terre des Hommes, c'est une organisation complètement folle. C'est une organisation suisse qui a été créée par un gars qui s'appelait Edmond Kaiser. Et à un certain moment, il dit il y a des enfants qui souffrent, qui ont des maladies qui ne peuvent pas être guéries sur place, comme le Noma. Et puis on pourrait les soigner en Suisse, mais il faudrait qu'on puisse les héberger quelque part. Et un auditeur a dit « Ah, bon, moi je crois que si on peut les héberger ». Et c'est comme ça que c'est parti. Ça, et maintenant, ça doit faire 30 ou 40 ans que la Suisse accueille des enfants qui ont des graves problèmes de cardiopathie. Ils sont opérés en Suisse. Il y a des bénévoles qui vont les accompagner. Ils logent ici. Et quand ils sont soignés, ils retournent en Afrique. Ou au Liban. Voilà.
Alors, on parlait de pays, on parlait de voyage, de Terre des Hommes. J'ai bien compris que vous aviez quelques jours pour pouvoir vous entraîner, certainement aussi pour visiter la région. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont marqué jusqu'ici dans le Valais?
Alors, on a été voir à Châteaudet, il y a un événement avec les montgolfières qui était très sympa, qui a fait grand beau. Grand soleil, donc c'était très agréable. Sinon, on a visité Martigny, qui est très très sympa, très mignon comme petite ville, et bien sûr les grosses villes, Lausanne, Genève, etc.
Alors je ne sais pas, Ludovic et Inaya, vous qui êtes des Valaisans, me semble-t-il, natifs du Valais, est-ce que vous avez peut-être une région, un endroit à conseiller à Anaë et à Florence pour les quelques heures qui restent, ou Nicole, qui serait important peut-être de ne pas louper? Nicole? Déjà Nicole?
Bonjour. Alors, bonjour, je m'appelle Nicole. Alors, en fait, je suis valaisanne du haut et valaisanne du bas. Moi, je peux te conseiller de monter à Sasfe. Tu vas te trouver sur 1900 mètres d'altitude, entouré avec des montagnes, 4000 mètres. Il y en a 13, ça s'appelle la Perle des Alpes. En été, on peut aller même skier. Il n'y a pas de voiture, tout le monde roule avec des électros. Puis toujours, c'est pas très très loin. Et la vallée parallèle, c'est Zermatt. En plus, aujourd'hui qu'on a discuté en fait de culture, de langue, de la Suisse, au sujet du bon allemand, on parlait du suisse allemand, on parlait de l'ovalaisan. J'aimerais bien en fait qu'on te ferait écouter Stefan Eichel en Berndeutsch.
Alors, volontiers, vous revenez la semaine prochaine, Nicole, et puis on parlera de ce peut-être Berner Deutsch ou de ce Walliser Deutsch, et on profitera pour mettre la musique. Gabriel.
Pour les Valaisans, le haut Valais, c'est clair, mais pour les étrangers, c'est quoi le haut Valais? C'est pas le Valais qui est plus haute altitude. C'est comme si on monte, on suit le Rhône à un certain moment, après Sierre, on traverse un bois, et dès qu'on a dépassé ce bois, on arrive dans le haut Valais, une région linguistique autonome avec un langage. Haut Valaisan, certains disent que le Haut Valaisan, ce n'est pas du suisse allemand, c'est vraiment. Vous pouvez nous donner un exemple de Haut Valaisan, Nicole?
Oui.
Vous pouvez nous parler en Haut Valaisan, qu'on l'entende.
Ja, also wenn ein Oberwalliser will verletzen, dann sage ich mal, ich bin ein Deutschschweizer. Wenn ein Deutschschweizer und Oberwalliser ist überhaupt nicht das Gleiche. Und wir reden viel schneller und viel kehliger. Es ist ganz eine eigene Sprache und es ist indogermanisch.
Alors, Gabriel, pour la traduction.
Alors, c'est une langue très originale qui, très vite, quand les Suisses allemands, c'est pas du suisse allemand, c'est une. Je devine à peu près ce que.
Indo-germanique.
C'est une langue
germanique. D'ailleurs, je voulais poser la question à Naïg. Est-ce qu'il y a eu des petites consonances comme ça avec le flamand dans ce que vous venez d'entendre?
Il y a un petit accent de flamand de temps en temps, des petits mots, maintenant les recités. Je pourrais pas.
Ja, sie hat gesagt, ich komme.
Le R, on le roule beaucoup aux Pays-Bas, en tout cas quand on parle néerlandais, on prononce bien le R.
Merci. Inaya, vous aviez une dernière question à poser à Anaïe.
Oui, ma question c'était, et après ce stage, quels sont vos projets?
Alors, moi j'ai comme projet, objectif final de finir dans une ferme pédagogique. Donc, une ferme pédagogique. Et l'objectif, c'est de faire de la médiation animale. Donc, je me suis peut-être déjà renseignée pour des formations ici en Suisse, pour faire une formation en Suisse et travailler en même temps ici.
Eh ben merci. En tout cas, plein de bonnes chances pour la suite de vos projets, que ce soit autant professionnel que sportif. Merci Anaë. Merci Florence d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Gabriel, vous vouliez nous, parce qu'on va rester quand même un petit peu dans cette belgitude, si on pourrait dire comme ça, vous vouliez nous proposer un titre de Arnaud et Mireille Mathieu qui s'intitule
La Paloma, adieu. Alors Arnaud, c'est un de mes chanteurs préférés. Je suis allé à Ostende à cause d'une chanson d'Arnaud, une reprise d'Arnaud. Donc je voulais faire écouter Ostende. Mais Arnaud, qui est un musicien belge qui doit avoir bientôt dans les 70 ans, avait dit « Mon rêve, c'est de faire un duo avec Mireille Mathieu ». Et tout le monde s'est toujours marré. Et lorsqu'il a su qu'il était condamné d'un cancer, il dit « C'est le dernier moment d'enregistrer un duo avec Mireille Mathieu ». Ils ont créé ce duo en studio, mais il ne l'a jamais entendu.
Eh ben merci pour ces informations. On se retrouve dans quelques minutes après ce magnifique titre.
Un jour, le bateau s'en va, toi fais l'océan. Et seul, le cœur plein d'amour, une fille attend. Je t'aime. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle. personnel. La paloma, adieu.
La paloma, adieu.
Adieu,
c'est toi que j'aime.
Magnifique morceau, La Paloma. En tout cas, je ne connaissais pas. Merci Gabriel de nous avoir fait profiter de ce morceau. Comme tous les jeudis, on retrouve les rencontres de Marie-Claude. En effet, chaque jeudi, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévaux. Aujourd'hui, c'est Éric Giraudet qui s'est prêté au jeu des questions. Éric est infirmier ici à Malévaux. En 2002, il vient de découvrir l'univers nocturne de l'hôpital. C'est le 3e épisode.
Les rencontres de Marie-Claude.
Alors, c'est particulier parce que c'est vraiment, pour moi, l'inconnu. Pour deux raisons. Déjà, le travail de nuit dans ce type de service et le travail en psychiatrie. Donc, j'avais fait beaucoup, beaucoup de nuits dans les soins somatiques, mais voilà, mais pas ni de jour ni de nuit en psychiatrie. Et puis j'ai été accueilli ce soir-là, je me souviens, par Rémi Brandt, qui est un ancien infirmier de Malévaux, qui a pris la retraite il y a quelques années. Donc l'accueil était juste super. Et puis il y a eu tout de suite cette plongée dans l'interaction soignant-soigné auprès de la personne avec des difficultés psychiques. Et ça, c'était étonnant. Donc ça m'a interpellé, et je crois que ce qui m'a le plus interpellé le premier soir, c'est tout ce que donne la personne soignée en psychiatrie. C'est-à-dire que, alors, par quelques exceptions pour certaines pathologies où là, effectivement, le discours est parfois pauvre, où il y en a très peu, où il faut aller le chercher, et puis après plusieurs jours, voire semaines d'apprivoisement de la personne, hein, parce que ça, c'est très important, puis comprendre leur façon d'interagir. Mais pour la plupart, il y a une spontanéité dans l'échange, beaucoup plus que dans nos sociétés, que je trouve tout à fait coincées en termes d'interaction et de discussion interpersonnelle.
Comme infirmier en soins intensifs, on a une blessure, on a quelque chose de concret à soigner. Et quand on arrive dans un hôpital psychiatrique, on a une blessure, mais elle est intérieure. Hein. Est-ce que peut-être il y a une différenciation là autour ?
On rencontre dans les soins somatiques tout un tas de personnes. Donc, en termes du continuum des personnalités, on peut avoir de tout. On peut aussi soigner des personnes atteintes psychiatriquement. Voilà. L'inconvénient des soins somatiques, c'est que ce qu'on nous demande en priorité, c'est le soin physique. Et en fait, on n'insiste pas assez sur d'autres traitements qui sont du rôle propre de l'infirmière. Tout ce qui va être le nursing, ça, c'est un moment d'interaction important. Hein. On rentre totalement dans l'intimité de quelqu'un. Hein. En soins intensifs, les personnes, en général, ont tout juste une chemise sur eux quand ils en ont une. Donc, on est vraiment dans l'intimité de la personne. Et je pense que ça doit favoriser une interaction verbale, non verbale, de compassion et de pure entraide. C'est pour ça que je dis que ça va au-delà de l'empathie. C'est pas de l'empathie, c'est pas possible. On ne peut pas dire je suis en empathie auprès de quelqu'un qu'on lave, qu'on nettoie lors des éliminations, etc., etc. On est invasif. Quelqu'un qui est intubé et qui est conscient, régulièrement, on descend un tube, une sonde dans la trachée pour aspirer les sécrétions. Donc on est invasif et invasif dans tous les sens du terme. Donc s'il n'y a pas cet aspect psychologique d'attention à ça dans la relation, on est maltraitant. Donc le soin somatique m'a fabriqué pour la psychiatrie en fait. Pendant mes études, j'ai adoré tous ces moments où on parlait de l'interaction humaine et je me suis nourri de ça. Et ça, ça a alimenté ma capacité d'interaction et de soins psychologiques, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. C'était ça que j'aimais réellement. Et là, je pense que c'est un peu mimétisme parce que ma sœur, pendant ses études, travaillait dans des réa. Et j'étais pris aussi dans ce soin technique, qui est aussi très intéressant. Hein. On manipule tout un tas de machines. Je pense notamment à une contre-pulsion que je connaissais par cœur le fonctionnement. C'est un ballon qui se gonfle dans l'aorte abdominale pour favoriser le remplissage du ventricule gauche. Donc c'est pour des cœurs en post-chirurgie cardiaque qui sont très affectés et qui arrivent mal à se contracter. Donc quand on maîtrise ça de l'extérieur, il y a un côté très valorisant comme ça. Et voilà, donc le soin technique, il fait plonger dans cet état d'esprit. Et ce qui fait que certains vont rester dans cette philosophie et travailler toute leur vie dans ces soins techniques. Et par exemple, en Suisse, il y a cette magnifique formation de 2 ans sur les soins intensifs et qui fait approfondir la technicité, la physiopathologie de l'être humain. C'est incroyable. Alors, ce sont des personnes qui, après, ont une maîtrise étonnante.
La technologie au service du soin, au service des blessures physiques, et l'attention et l'interaction humaine au service des blessures psychologiques, un va-et-vient qu'Éric Giraudet a pratiqué dans son métier d'infirmier. On va le retrouver jeudi prochain au micro de Marie-Claude Crudry, et à l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Alors, on a entendu travail de nuit, psychiatrie, somatique, on a entendu blessures intérieures, extérieures, on a entendu aussi rôle propre d'infirmier, rentrer dans l'intimité de la personne, compassion, entraide, versus empathie, et puis aussi intrusif ou invasif. Voilà un petit peu, moi, c'est des mots comme ça qui ont résonné en moi. Comment ça a résonné en vous, autour de la table, après cet échange? Je ne sais pas qui a envie de rebondir. Nicole.
Alors, je m'appelle Nicole. Je suis patiente depuis un bon petit moment, de nouveau. Et c'est impressionnant, en fait, le travail ou le labeur qu'ils font, toute cette gentillesse et cette attention et cette patience qu'ils ont, je tire chapeau. Souvent, j'adore, je les observer de loin, de regarder comment ils font, comment ils gèrent, comment je ferai un apprentissage, de apprendre aussi comment je peux mieux gérer ma vie ou si je serais dans un conflit, comment je pourrais faire. Alors, je trouve ça, quand j'étais gamin, en fait, quand j'étais petite, je voulais devenir nurse. Et finalement, je suis devenue hôtelier. Et en fait, en 4e génération, et quelque part, on retrouve un petit peu la même chose. C'est le sens de l'hospitalité, le sens de prendre soin.
Hôtel et hôpital viennent du même mot.
Oui, je me rappelle même, en fait, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, un jour, tu es venu à un endroit que j'avais à Sion, et tu m'as offert un livre qui s'appelait Le Bistrot.
C'est juste, je l'ai offert ou je l'ai vendu?
Tu me l'as offert.
Ah, mais j'étais gentil il y a 25 ans.
Ouais. Ah, ça a bien changé depuis. Non, c'est pas vrai. Mais je suis touché par vos mots parce que c'est vrai, vous dites ils sont attentifs, attentionnés, à l'écoute. Mais finalement, quelles sont les attentes quand vous êtes avec un infirmier? Alors, Ludovic.
Alors les attentes quand on a un infirmier, c'est justement c'est tout ce que vous avez dit. Donc je pense qu'ils remplissent entièrement leur rôle d'infirmier. Ils sont vraiment attentifs, à l'écoute et aux petits soins avec nous. Et pour ça, je les remercie.
Mais est-ce que vous attendez d'autres choses? Je ne sais pas, parce que souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend à part peut-être l'écoute? Alors, il parlait d'empathie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là. L'empathie, c'est comment comprendre la souffrance de l'autre sans la subir soi-même. Mais au-delà de tout ça, parce que ça, c'est vrai, c'est ce qu'on attend, c'est un peu le rôle propre de l'infirmier, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre, peut-être, dans cette rencontre?
Pour ma part, moi, ça me suffit et ça me va largement, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, ils attendent plus ou je ne sais pas. Mais personnellement, moi, ça comble moins que le besoin que j'ai en venant ici.
Merci.
J'ai juste une question. Il y a ici une partie hôtelière. On a un service hôtelier. Il y a des chambres, il y a des lits, il y a la petite cuisine, il y a le déjeuner. Est-ce que vous trouvez que ça... Vous recommandez comme hôtel là, sur le guide du Routard ou sur TikTok? Je trouve qu'on est bien,
on est bien reçu, Inaya.
Je trouve personnellement que ça va. En fait, je trouve que le seul souci, c'est par rapport à tous les gens qui sont là par rapport aux idées suicidaires, exemple. Exemple, dès qu'on fait de l'automutilation, on est viré de l'hôpital. Si on fait une tentative de suicide, on est viré de l'hôpital. Alors que on est là pour ça, justement. Et du coup, c'est compliqué d'arrêter du jour au lendemain à se mutiler. Et sans avoir de clé en plus pour.
Ouais, je comprends votre positionnement qui est de se dire, mais finalement, quand je n'ai pas compris pour quelles raisons on a décidé de mettre un cadre en place, mais est-ce que vous avez pu reprendre peut-être lors d'une deuxième hospitalisation avec les personnes qui vous ont suivi, médecins, infirmiers, de dire, écoutez, moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez pris cette décision-là et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Parce que c'est vrai, des fois, on peut rester un peu surpris de se dire, et sur le moment, des fois, on n'est pas capable, au moment où on est pris par la crise, quand on parle existentiel, des douleurs, d'entendre les choses, mais est-ce que vous avez pu peut-être faire l'expérience de demander par la suite, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et pourquoi on a pris cette décision?
J'ai compris que c'était surtout, à l'hôpital, c'était surtout une question de relation de confiance. C'est-à-dire qu'on doit aller, quand, exemple, on a envie de se faire du mal, on doit aller faire un pas vers l'infirmière pour qu'elle puisse nous aider.
Oui, ok, ça c'est déjà une chose. Alors moi, j'ai dit souvent, c'est bien sûr qu'à l'hôpital, on accueille, c'est un service public. On vient à l'hôpital parce qu'on a envie d'être soutenu, d'avoir besoin d'aide. On vient rarement à l'hôpital pour vouloir mourir ou se tuer, parce que c'est pas le but de venir à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir échanger sur finalement les raisons, les cadres qui font qu'à certains moments, est-ce que c'est dans un but de pouvoir faire prendre conscience aux gens? Est-ce que c'est de mettre des limites? Est-ce que c'est de dire, on voit qu'au bout d'un moment, on tourne en rond et est-ce qu'on ne devrait pas à un moment stopper cette spirale infernale malgré tout ce qui a été fait en amont et qu'à un moment, il faut qu'il y ait cette rupture pour qu'il y ait cette distanciation de ces moments-là qui font que, oui, il y a des décisions qui sont prises de manière médico-soignante. Je rassure nos auditeurs qu'on ne va jamais mettre quelqu'un à la porte ou mettre fin à une hospitalisation comme ça, de manière très arbitraire. Il y a un échange qui est fait, il y a une décision médico-soignante et en pesant cette balance des risques-bénéfices. Le risque zéro n'existe pas, mais il y a toujours des raisons sur lesquelles... Et puis, des fois, c'est vrai, mais je peux me mettre à votre place de dire c'est si on n'a pas les explications ou réellement l'explication de pourquoi, je me sentirais autant frustré dans l'injustice et voire même déconsidéré, c'est vrai. Gabriel.
Ah non, j'ai rien à ajouter.
Ah non, parce que je vous voyais hocher de la tête. Alors, on a Amel. Bonjour, Amel.
Bonjour.
Bonjour. Déjà, qui êtes-vous? Ça fait plaisir d'avoir. Présentez-vous en quelques mots.
Alors, Amel Mahfoud, je suis le vis-à-vis de Florence, mais du côté du Valais. Donc, je suis la responsable des mobilités internationales en Valais. On s'était rencontrés une fois dans une émission de radio avec deux participantes qui étaient aussi du domaine de l'asile, mais qui faisaient aussi un stage, une passerelle pour entrer dans les HES.
Oh, vous voyez, ma mémoire me joue des tours, vous voyez, comme quoi, on a beau être infirmier ou responsable ou derrière le micro, vous voyez, comme quoi, on a aussi des pertes de mémoire et autres. Alors, votre visage m'était pas inconnu, mais j'aurais jamais pu vous remettre. Donc, merci de me remettre dans le contexte.
Voilà. Donc, vous étiez encore dans la petite salle au fond pour la radio. Donc, alors, moi, au fait. Rien à voir avec ma fonction, mais moi, je voulais juste rebondir sur ce métier d'infirmière ou d'infirmier. Et puis moi, de dire que, vraiment, j'ai une admiration réel pour ce métier-là, parce que moi, personnellement, que j'aurais jamais pu faire, parce qu'il y a cette façon de pouvoir aller au-delà de ce qu'on peut, comment dire, qu'on peut supporter personnellement pour aller aider l'autre. Parce qu'on a toujours des peurs, on a toujours la peur de faire mal, on a toujours des fois, est-ce que... Il peut y avoir une forme de je sais pas, de, on ne peut pas toucher des choses, je sais pas moi, des saletés, des trucs comme ça. Il y a des situations où, personnellement, on peut être un peu choqué, mais vraiment, les personnes qui travaillent dans ce métier sont capables de dépasser un peu cette appréhension première et d'aller vraiment vers la personne et de travailler avec et de construire un peu cette capacité à faire face à différentes situations, mais avec... bienveillance, j'imagine, dans la majorité des cas. Peut-être des fois, bon, on est tous des êtres humains, donc ça peut être un peu plus compliqué pour certains, mais de pouvoir vraiment gérer ces situations-là compliquées, moi, ça force l'admiration et je me dis, bon, heureusement qu'il y a des gens qui sont capables de le faire.
Je vous remercie. Je ne peux qu'appuyer vos propos hein, sur ce lien qui est de cette rencontre, c'est d'humain à humain. Et des fois, en tant qu'humain, ben, on ne réagit pas toujours tout de la même manière, même qu'on soit soignant. En fait, la construction se fait de la rencontre. Donc moi, j'aimerais déjà remercier les soignants qui nous écoutent, mais j'aimerais aussi remercier les bénéficiaires en soins parce que c'est aussi grâce à vous qu'on se construit. C'est dans cet échange, c'est en faisant des erreurs, en allant à la rencontre avec l'autre qui fait qu'on s'améliore en tant que praticien parce qu'on ne sort pas de l'école, j'imagine, sociale, infirmier, on a parlé, en étant diplômé. Et non, c'est la pratique, c'est la rencontre avec l'autre, c'est les échanges qu'ils font, comme aujourd'hui, ces échanges rencontres. Merci en tout cas d'avoir participé à cet échange, à Mel. On se coûte un court instant après cette chanson magnifique de Angèle. D'ailleurs, on va rester dans les musiques belges parce que le soin, c'est aussi une part d'amour. Hein. Alors, quand on parle d'amour, c'est d'une part d'être en lien avec l'autre. Hein. Donc, Bruxelles, je t'aime de Angèle.
De New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
magnifique morceau d'Angèle. D'ailleurs, on disait en rigolant en off que je chantais mais mal parce que je connaissais que les dernières phrases de la chanson. Place à l'échange entre Gabriel et notre dernière invitée du jour. Ça y est, je cherche mes fiches. Myriam Pruvot, formée aux Beaux-Arts, à l'improvisation et aux techniques vocales, vous explorez la performance, la radio, le texte et la composition. Votre travail interroge le chant, le langage et les lieux dans leur dimension politique et poétique. Autrice et interprète, vous collaborez à de nombreux projets en Europe. Vous avez créé des performances, des installations sonores, un opéra radiophonique et vous enseignez depuis 2019 à l'Académie de la Cambre. Et avec, j'espère que je le prononce bien, Anténae, votre film musical, vous racontez la rencontre entre une trombophoniste flamande et une preneuse de son dans une abbaye cistercienne. J'ai les yeux qui louchent. Pendant 2 jours et 2 nuits, elles explorent le lieu avec leur instrument à l'écoute des ondes, des fréquences et des fantômes, un dialogue sensible et habité entre musique, espace et imaginaire. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
À vous, Gabriel.
Alors, je crois que tu as buté sur un nom.
Oui, j'ai buté sur un nom.
J'ai aussi buté, et mon dictionnaire du traitement de texte ne connaissait pas, une théorbiste.
Oui, qui s'appelle Sophie van den Heijden, qui est flamande, qui vit à Bruxelles. Et donc le théorbe, c'est un luth baroque. Donc c'est un luth, mais dont le manche est très très long, et ce qui permet d'avoir des sonorités beaucoup plus graves. Et c'est un instrument qui a vu le jour au moment où s'est constitué, où s'est créé l'opéra, puisque c'est un instrument qui accompagnait particulièrement le chant.
Alors, bienvenue parmi nous. Ce n'est pas vraiment nouveau pour vous d'être au micro d'une radio ou de participer à de la radio?
Non, la radio, c'est aussi un peu une partie de ma vie en tant que réalisatrice. Voilà, donc je suis souvent devant et derrière le micro, parce que voilà, c'est dans ma pratique.
Mais ce n'était pas évident, vous avez fait une école d'art, et comment vous êtes allée d'une école d'art au travail sonore, à la création sonore?
Alors, dans les écoles d'art, ça fait quelques années maintenant qu'il y a une ouverture à ce qu'on va appeler l'art sonore. Donc c'est une dimension, on va dire, plus plastique du son, donc ce n'est pas tout à fait de la musique, c'est plutôt la question des objets sonores, des installations, aussi du son, de ce qu'on va appeler le son de terrain, le field recording. Par ailleurs, moi, j'avais une pratique aussi du chant et de musique plutôt autodidacte. Et puis, cette pratique a pris beaucoup de place et m'a fait aussi traverser plusieurs mondes. Je continue à avoir une approche quand même assez, expérimentale et multiple du son.
Oui, et puis vous avez des approches, vous avez travaillé en Valais, un travail autour des sourcières. Alors j'ai trouvé ça aussi un très beau néologisme. J'ai imaginé que c'est une espèce de mélange entre sorcier et sourcier, c'est bien juste. Qu'est-ce que c'était ce travail que vous avez fait à la Fermazil-Sion?
Alors à Fermazil, en 2019, quelques jours avant l'épidémie du Covid, j'étais invitée par Rudy Dusselière, qui est artiste sonore suisse, qui fait de très belles installations avec souvent des éléments du vivant, des feuilles séchées, qui réalise également des films sur les fleuves. Et il connaissait mon travail en tant que musicienne et artiste. J'ai réalisé une performance dans le cadre de son exposition. Mais ce n'est pas mon seul lien à la Suisse, puisque je suis venue aussi en 2021 créer un opéra radiophonique qui s'appelait Un opéra modeste au Festival Archipel à Genève. Donc je parcours un peu la Suisse au gré de mes projets.
Ah oui, puis vous avez aussi collaboré au Festival de la Cité à Lausanne, il me semble.
Oui, au Festival de la Cité à Lausanne, où j'ai présenté une pièce qui s'appelle « Trois fois Tirésia » une performance de divination enchantée, voilà, autour de la figure mythologique de Tirésia, qui a été homme et femme à la fois.
Je trouve que vous avez des très beaux titres quand je lis les CV, très énigmatiques. Alors, vous avez fait un travail au Maroc, et ça s'appelle « Je parle toutes les langues, mais en arabe ».
Alors, moi, j'aime beaucoup ce titre, mais ce titre, en réalité, je l'ai emprunté à Abdel Latif Labaati, qui est un poète essayiste marocain, qui lui-même l'avait emprunté à Franz Kafka, puisque la formule originelle, c'est « Je parle toutes les langues, mais en yiddish ». Et c'est un documentaire de création que j'ai réalisé au Maroc. Alors, quand je dis documentaire, je précise que je ne suis pas scientifique. Je ne viens pas du monde académique. Donc, je ne suis ni anthropologue, ni sociologue. J'ai vraiment une approche par la pratique. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'endroit de la musique et de la pratique vocale que je pratique plutôt la conversation. Et donc, dans ce documentaire de création, c'est une série de conversations avec des pratiquants aussi, des pratiquants de la parole. C'est-à-dire, une poétesse soufie, il y a un traducteur, un jeune muezzin, et on a parlé de la spiritualité soufie aussi comme culture orale et aussi dans sa dimension poétique et même métaphysique d'une certaine manière.
Vous explorez les dimensions politiques, poétiques et philosophiques de la voix. Est-ce que la voix est pour vous un outil de résistance, un espace d'intimité, un territoire ?
Alors, je vais citer un Namurois pour vous faire plaisir, qui est Henri Michaud, qui dit « Qui cache son fou meurt sans voix ». Et je pense qu'en effet, la question de l'oralité, du langage et de la voix témoigne de beaucoup de choses. Il y a énormément de strates qui peuvent s'explorer depuis la voix. Ce que je trouve intéressant, c'est que on pourrait dire que c'est un objet, d'une certaine manière, qui est partagé par tous. Le langage, la voix, c'est quelque chose dont tout le monde fait l'expérience et qui peut être un endroit de questions, de réflexion, depuis son corps et aussi depuis son espace culturel, son éducation, depuis aussi son handicap ou ses entravements. Donc, voilà.
Alors, si vous êtes d'accord, on va écouter un petit teaser, 1 minute 40. C'est un teaser d'un documentaire.
D'un documentaire fiction où moi-même, je joue une preneuse de son et où Sophie van den Heijden, théorbiste, accepte aussi de performer son rôle de théorbiste.
Donc voilà. Là, nous allons entendre du théorbe.
Et du chant.
Alors, le son s'est interrompu. Est-ce que tu peux improviser ? Oh, qu'est-ce que ça disait ?
Déjà, le son tire très instable. Et donc, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Parce que c'est pas si loin de la psyché humaine. Le son, contrairement à l'image, c'est physiquement, ça se transforme selon les lieux. Un violon dans une chapelle ou dans une plaine, ça sonne pas pareil. Et il y a quelque chose d'un peu indocile dans le son qui m'intéresse. Et vous voyez, par exemple, on peut jouer un morceau et puis lui-même, il décide d'aller vivre sa vie ailleurs.
D'ailleurs, un de nos voisins ici, il y a des rencontres qui sont absolument improbables. Alors, je lui ai parlé de Pierre-Marie Étain, qui est un compositeur suisse, né à Monté, là, le premier voisin de l'hôpital psychiatrique. Il lui disait, on a fait une erreur, on a joué dans les églises, alors qu'il faut jouer avec les églises. L'instrument, c'est l'église. Et il a eu toute une réflexion, donc ce Pierre-Marie Étain, et il se trouve que vous le connaissez.
Oui, il se trouve qu'une de mes plus anciennes amies et sa fille, Elsa Marie Étain, que je salue, je pense qu'elle sera très touchée, C'est presque un peu étrange d'être ici sans elle parce qu'elle est vraiment c'est une fille du pays. Et il s'avère que donc, son père, compositeur, moi je l'ai rencontré très jeune. Je venais des arts visuels, j'étais pas très au fait de la musique contemporaine. Et c'était un personnage qui gravitait un peu dans mon environnement et qui était un peu, c'est vrai, précurseur sur les questions d'écologie sonore. Je dirais que oui, plus de 20 ans après, finalement, il y a beaucoup de choses qu'il a amorcées, qui finalement sont des sujets qui concernent très fort et les artistes dont je fais partie, mais aussi les étudiants, par exemple, que j'encadre à la Cambre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interagit avec son environnement, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qui est voué aussi à disparaître dans nos espaces d'écoute, comme les oiseaux, par exemple. C'est une sorte de chemin de piste dans lequel je retrouve un peu des compagnons de route, que ce soit Pierre Marietan ou Dipna.
On va y venir. Donc Pierre Marietan, par exemple, avait composé une œuvre pour le 700e anniversaire de la Confédération suisse en 1791, Pays Musique, une œuvre entièrement composée avec des sons de la rue, des sons de... du paysage, des cloches, des bruits de voix, puis ça crée une espèce de une œuvre comme ça qui prend de l'ampleur, avec des rythmes, quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est clair que vous êtes ici sur les traces de Sainte Dipna. Alors, nous, c'est la quatrième Belge dont il va être question aujourd'hui, Dipna. Alors, je vous laisse prononcer de Ril.
Alors peut-être que oui, il y a débat sur la manière de prononcer donc cette ville flamande qui est Kiel. Peut-être voilà. Alors c'est une ville donc la ville de Kiel, c'est une ville qui se trouve autour de la province d'Anvers, pas loin des forêts des Campines, et c'est la source d'un mythe, du mythe de Dipna. Alors pareil, Dipna, on peut dire Dimfna, on peut dire Dipna. Et c'est une figure mythique du 7e siècle qui, d'une certaine manière, pourrait presque être une sorte de version primitive de Podan, de l'histoire de Podan. Et dans son histoire, c'est que c'est la fille d'un roi païen d'Irlande qui, à la mort de sa mère, s'est enfui avec son confesseur, Gerebert, puisque son père a exigé sa main, puisque sa propre mère, donc la reine, a exigé qu'il se marie avec une femme d'égale beauté. Et donc, il a demandé la main de sa fille. Dipna s'est enfuie. Elle a traversé la mer du Nord, elle a remonté l'Escaut et elle est arrivée à Kiel. Et là-bas, elle a ouvert un hospice pour ce qu'on appelait à l'époque les indigents. Donc les indigents, c'était tout autant les personnes qui avaient des troubles, des maladies mentales, mais c'était aussi, on va dire, les orphelins, les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, vivaient un peu hors du monde et hors de la société. Malheureusement, Dipna était retrouvée par la garde de son père, puisqu'elle a payé son voyage avec des écus d'or à l'effigie du royaume, et elle a été décapitée.
Et c'est une manière assez radicale de régler les problèmes de famille.
Tout à fait. Qu'on a mis en place pendant la Révolution, mais qui, heureusement, on a trouvé d'autres, d'autres pratiques que la décapitation. Mais alors, la chose intrigante, donc, c'est que ces reliques sont devenues des objets de culte qui ont créé une sorte de pèlerinage à travers l'Europe où les personnes dites démentes venaient sur la tombe de Dipna pour recouvrer la raison. Et cette histoire, elle a perduré à travers les siècles jusqu'à l'invention de la psychiatrie. Et
À tel point que le pape a diligenté une enquête au XIIIe siècle, sauf erreur, donc 8 siècles plus tard à peu près, et c'est là que l'Église catholique formellement prohibe l'inceste et autorise la création de nouvelles lignées, même dans les familles royales. C'est-à-dire que les enfants... Aujourd'hui, on se sujet d'une néolocalité matrimoniale. C'est-à-dire que vous pouvez quitter votre ménage pour aller créer une nouvelle souche. Et vous êtes à la recherche de Dipna et ça vous amène à Malévo. Alors, il y a quand même un grand saut. On se trouve à Ril, dans les...
Hill.
Et m'allez-vous,
qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que déjà, moi, je tombe sur cette histoire et je me dis, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'une femme à tête coupée devient l'effigie de la raison? Il y a quand même une énigme à la base. Et puis, grâce à une amie historienne de l'ULB, qui a fait un doctorat sur l'histoire de la médecine, je découvre qu'une partie des archives sont... donc, les archives, c'est-à-dire les registres des personnes qui ont été placées, puisque donc ce culte a donné lieu à après ce qu'on a appelé les colonies familiales. C'est-à-dire que l'Église, étant complètement dépassée par l'afflux de pèlerins, a proposé à des familles à Hill d'héberger des personnes dites démentes ou folles ou malades contre une petite rente. Et ce sont devenus des familles nourricières. Et on a appelé ensuite ces personnes hébergées des pensionnaires. Et ce système, il a perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui, avec une passation de l'Église à l'État, puisque toute cette histoire, elle raconte aussi la sécularisation de la société belge et le passage entre des démarches, enfin la création de l'hôpital, la création des institutions sociales, pardon, et aussi le début d'une société. Humaniste, bourgeoise. Donc, je découvre les archives de Hill et je découvre le nom des personnes qui ont été pendant des siècles accueillies à cet endroit, leur prénom, pourquoi elles étaient ici. Et puis, cette histoire me passionne parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très contemporain aussi avec nos sociétés et avec aussi peut-être un effondrement, on va dire, justement de la question du soin et de la solidarité sociale. Je cherche sur Internet et puis je tombe sur une vidéo d'un homme qui joue de la dompagne dans ce qui semble être une chapelle et il y a écrit « Messe de la Sainte Dipna ». Je vois un nom, Antonio Esperti. Je trouve son adresse et je lui écris. Et il me répond et je lui dis « Mais... moi, je veux vraiment vous rencontrer parce que je suis musicienne, je suis chanteuse. J'adore la cornemuse, j'adore la zampagna. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe à Malévo. »
Et qu'est-ce qui se passe à Malévo?
Eh bien, il se passe qu'Antonio Esperti, c'est un musicologue, un infirmier, qui utilise ou en tout cas dialogue avec la musique dans sa démarche de soins auprès des patients. Et donc, il m'a dit, mais venez. Et puis, ce que je vous propose, c'est de même rester quelques jours et de séjourner au centre culturel de Malévo. Et voilà pourquoi je suis là.
Antonio Esperti, donc, je l'avais invité à venir jouer lors d'une messe. Donc, la zampagna, c'est vraiment l'ancêtre de la cornemuse. C'est un instrument qui vient du sud de l'Italie. Alors, on l'a invité à venir à une messe. Et là, il m'a dit, mais la Sainte Dipna m'est apparue, d'accord, ou je me suis apparu. C'est très curieux ce qu'il a dit. Et il a voulu créer quelque chose. Vous avez parlé du Covid. Chaque année, on organise une messe le 15 mai pour Sainte Dipna et une réflexion autour de la spiritualité. La prochaine fois, ça sera autour de la voix. Et cette année-là, il y a eu une seule personne à la messe, c'est Antonio Esperti qui a enregistré une messe complète, en messe cyclique, comme ça, magnifique, avec toutes les pièces où il joue tous les instruments, des instruments avant. Voilà pour Antonio. Vous avez rendez-vous avec lui ici un de ces jours?
Demain. Demain, je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'ai ramené tous mes micros. Donc, j'utilise plein de micros différents, des micros pour la voix, des micros qui captent plutôt les environnements, les architectures. Et l'idée, c'est de discuter avec lui parce que je trouve vraiment, vraiment intéressant aussi de partager avec des personnes qui sont ancrées dans la pratique du soin et la pratique de la musique, en l'occurrence.
Donc, on peut déjà annoncer que le 15 mai de cette année, la journée de Saint-Dipna sera consacrée à la voix et nous aurons comme invité Myriam Pruvot qui viendra présenter ses travaux en cours sur Saint-Lipna et autres choses.
D'ailleurs, j'ai une dernière question par rapport à votre travail, hein, parce que vous parlez d'ondes de fréquence. Puis tout à l'heure, quand on a eu, finalement, vous avez dit, la musique, elle est partie, et elle a fait son propre chemin. Quand on a eu ce petit arrêt subtil, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous cherchez à captiver l'invisible? Ou plus largement, est-ce que le son permet que l'image ou les textes ne permettent pas?
Je pense qu'on perçoit. Alors, c'est peut-être là pour vous répondre, peut-être où il y a un terrain sur la question, peut-être de la souffrance psychique, de la maladie mentale, ou peut-être des particularités mentales. C'est parce que je pense qu'on a un monde en commun, mais qu'on reçoit ce monde depuis ce qu'on est, et qu'on est, disponible. On voit et on entend ce à quoi on est disponible. Et je pense que je viens de l'image, mais quelque chose à l'endroit du son me bouleverse. Et j'ai l'impression que c'est l'endroit aussi où je suis le plus aiguisée, où je suis la plus à même de comprendre mon environnement, mon échelle aussi. Et... Je ne pense pas qu'il y ait un sens où, qui domine les autres, mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être dans l'expérience du sonore qui pour moi est une expérience commune et qui renvoie aussi à une forme d'instabilité, de fragilité que je trouve inspirante et que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est aussi à défendre d'une certaine manière, puisque c'est aussi cette forme d'impossession du son et de la musique. Voilà.
Voilà. Alors, la clé de l'énigme, c'est que dans la chapelle de Malévaux, construite dans les années 30, une fresque a été peinte par un artiste genevois qui raconte l'histoire de Saint-Dipna. Et quand on a découvert cette chapelle qui s'appelait Notre-Dame-des-Neiges, on a décidé de la débaptiser, de la rebaptiser chapelle Saint-Dipna. Et cette petite fête de Saint-Dipna qui aura lieu pour la 16e fois cette année, c'est notre petite manière de nous relier non seulement à la Belgique, et on termine ensuite, mais aussi à l'Irlande, puisqu'on a reçu un artiste de Dublin qui a préparé un opéra sur un hôpital psychiatrique. Et on va terminer là-dessus. Vous rentrez de Dublin.
J'étais à Dublin quelques jours auparavant. J'ai voulu... des fois, en radio, quand on crée un documentaire, il faut trouver aussi... c'est un peu une enquête. Et c'est souvent plus intéressant de ne pas tout à fait savoir ce qu'on cherche. Mais j'ai quand même voulu refaire le chemin inverse de Dipna. Et donc, je me suis dit, moi, je vais partir de Bruxelles, de Kiel, pour aller jusqu'en Irlande. Et je suis allée jusqu'à Dublin. Je n'ai pas rencontré Dipna, mais par contre, j'ai vécu l'expérience de la traversée. Je suis partie en ferry. J'ai fait un voyage de 18 heures sur ce bateau. Et puis j'ai pu passer des soirées dans les pubs de Dublin où la question de la musique a toujours, en tout cas, une grande fonction sociale.
Et vous avez terminé par aller vous recueillir sur la tombe d'une Dipna irlandaise.
Oui, je pense qu'il y a Dipna dans l'histoire. Elle a 14 ans, c'est une adolescente, et je crois que il y a beaucoup d'adolescentes qui, à un moment donné, passent par un internement. C'est quand même quelque chose qui je crois, est une expérience partagée de beaucoup de jeunes filles. Et sachant que j'allais pas trouver une sainte du 7e siècle à Dublin, je suis allée rendre visite à Sinéad O'Connor, qui est une musicienne qui était aussi militante, activiste. Et je suis allée chanter sur sa tombe une chanson irlandaise qu'elle-même a chantée. C'était une manière aussi de célébrer toutes les formes de saintes ou de telles qu'elles ont pu être à travers les siècles. Voilà.
Alors, Ludovic avait choisi une chanson qui sera peut-être plus à propos. Vous voulez qu'on se quitte en chanson? Vous voulez nous proposer une impro?
Alors, je peux vous chanter juste quelques phrases de cette chanson de Sinéad O'Connor, si vous voulez.
Alors, on terminera le temps que vous vous préparez. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités. Anaëlle Lejeune, Florence Drion, Myriam Préau, merci à Gabriel pour cet échange avec notre dernier artiste, cet échange, cette rencontre radiophonique. Un grand merci à Julien Morand à la technique. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. Et on se quitte avec un live improvisé de Myriam Préau.
Myriam Préau qui ne connaît pas encore tout à fait les paroles, mais du coup, je vais essayer de... Donc, c'est un morceau qui s'appelle « I am stretched on your grave ». Donc c'est de Sinéad O'Connor. Et je vais juste vous interpréter les deux premiers paragraphes.
I am stretched on your grave and will lie there forever. If your hands were in mine, I'd be sure we've not savor. My poultry, my brightness, it's time we were together, for I smell all the earth and warm by the weather.
Voilà, et ça dit je suis allongée sur ta tombe. J'y resterai pour toujours. Si ma main était dans la tienne, je suis sûre que nous serions sauvés. Mon arbre, mon pommier, ma lumière, il est temps de se retrouver. Je sens la terre et je suis cajolée, réconfortée par le temps. Voilà.
Merci.